Vous écoutez France Culture.
Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, le traité de l'âme d'Aristote.
La semaine dernière, dans Les vivants et les dieux, en compagnie de Jean Lauxerrois, nous avons réfléchi sur le sens du divin qu'avaient les Grecs. Et particulièrement, cela nous a amené à réfléchir sur Platon et sur la notion de la folie, de la bonne folie bienfaite de l'humanité chez Platon, telle qu'on la découvre dans le dialogue du Phèdre. Aujourd'hui, je voudrais prolonger cette réflexion sur le monde grec en compagnie d'Ingrid Auriol, professeure agrégée de philosophie en lettres en classe de lettres supérieures, qui vient de traduire aux éditions Pocket le traité de l'âme d'Aristote. Et il me semble assez normal, après avoir réfléchi sur Platon, de réfléchir sur son élève rebelle en partie, qui était Aristote, mais qui, on le sait, est quand même à la racine de toute une philosophie occidentale dont nous sommes les héritiers, même si parfois, d'ailleurs, c'était un Aristote un petit peu arrangé, l'Aristote que l'on va retrouver dans toute la scolastique médiévale, que l'on va retrouver d'abord chez saint Thomas d'Aquin, bien sûr, et qui s'inscrit dans le courant de ce qu'on appelle l'avéroïsme latin. Donc, avec Ingrid Auriol, il s'agit de redécouvrir là aussi Aristote, d'avoir une lecture neuve d'une certaine manière, de réfléchir sur son vocabulaire, sur ce qu'il transporte, et éventuellement sur une nouvelle vision de ce qu'est l'âme en tant que telle, et de ce que l'âme accomplit dans la vie et dans le corps de l'homme, si je peux m'exprimer ainsi.
L'âme est en quelque sorte ce qui fait vibrer, ce qui anime, comme on l'entend en français, c'est-à-dire donne mouvement et vie au corps qui est le sien, et pas n'importe quel corps.
Nous, influencés par une certaine tradition, nous avons clairement fait la différence entre l'apparence et l'être même, ou l'idée même. Il faudrait évidemment beaucoup discuter sur l'équivalence que je pose ainsi entre l'idée et l'être. Et on a l'impression que l'apparence, d'une certaine manière, dit la vérité de la chose, en fait.
Oui, mais c'est pas faux. L'apparence en dit beaucoup plus que, en tant qu'apparaître, que le démenti qu'on lui apporte sans cesse.
Oui, mais alors justement, est-ce qu'il ne faudrait pas penser que dans l'apparence, il y a de l'apparition ?
Oui, dans l'apparence, il y a de l'apparition. Il y a même la comparution de cela même qui est.
Mais alors, bon, on va en revenir à Aristote très précisément. Qu'est-ce que l'âme pour lui ?
L'âme est à la fois la source de toute vie, ce qui fait vivre. Arché, il dit. Arché, c'est à la fois ce qui commande et ce qui commence et ce qui donne le coup d'envoi, ce qui donne l'impulsion du mouvement de l'âme. Et l'âme est ce mouvement, elle est à la source et en même temps elle ne peut se comprendre ou du moins s'appréhender que dans les multiples possibilités qu'elle déploie. Et il ne faut pas moins de tout le traité de l'âme tout en entier pour dire ce qu'elle est. C'est-à-dire que l'âme ne se conçoit pas indépendamment de la sensibilité, des visualisations que nous offre notre imagination, comme on dit en français, ou plutôt, comme dirait Aristote, la fantasia, qui n'est pas tellement, qui est d'abord une manière de visualiser, de voir, et aussi, bien entendu, la pensée. et la pensée la plus haute, celle qu'on appelle la vision sans restriction, la théoria.
Que vous relancez ce mot de théoria, est-ce que là aussi, enfin théorie donc,
oui, théorie.
Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi s'entendre dans la mesure où la théorie, maintenant nous avons une compréhension quand même très, très limitée de ce mot, et on oublie que théoro c'est quand même théorène, c'est au départ voir. Si je me rappelle bien, on a quand même tout un passage de Scott Erigène justement sur le voir, et en même temps sur le ce que ça a donné, c'est-à-dire la procession, la théorie des gens qui allait voir les dieux.
Sur le voir, bien entendu, c'est indéniable que on peut entendre la théorie comme ça, mais il ne faudrait pas, bien sûr, l'appauvrir au sens où vous dites qu'aujourd'hui, on ne comprend pas bien ce que c'est, et c'est tout à fait vrai, dans la mesure où on sépare, après Aristote, peut-être sous son impulsion, mais en oubliant d'où il procède, ou comment il procède, la théorie et la pratique. Or, la théoria, c'est peut-être la manière la plus altière, ou la plus pleine, la plus réussie de faire advenir une praxis humaine, une manière d'être humaine. Donc, c'est un voir, c'est vrai, mais c'est un voir qui se déleste de tout ce qui est de surcroît, tout ce qui fait obstruction au voir.
Mais alors, qu'est-ce qui peut faire obstruction au voir?
Tout ce qui est considéré comme déjà vu, tout ce qui ne procède pas justement de toute cette mise en œuvre pensante.
Vous êtes servi tout à l'heure d'un mot, Ingrid Rodiol, sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, qui est le mot d'arché. Parce que là aussi, on a l'impression que l'arché est souvent mal compris aujourd'hui, dans la mesure où l'arché, ce que nous entendons, c'est l'ordre de l'archaïque. Alors, ce qu'on ne comprend pas, me semble-t-il, c'est que c'est de l'ordre où on l'a traduit à la fois par principe, par origine, par commencement, par et en oubliant qu'en même temps, c'est sous le gouvernement de quoi on est. Ce qu'on trouve dans le mot monarchie, etc. Et je me rappelle d'ailleurs une expression d'Aristote même, qu'il a reprise à Isocrate, d'ailleurs, si je me rappelle bien, arché, arché, kakou, parlant de la confédération athénienne, c'est-à-dire que l'Empire était le début du mal. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est à la fois le commencement, c'est un commencement dont on a l'impression qu'il est tout le temps en commencement, d'une certaine manière, et que justement l'origine est tout le temps présente, et tout le temps en train d'advenir, et qu'en même temps, nous sommes sous son gouvernement.
L'arché, c'est tout à fait le commencement et le commandement, mais c'est aussi l'origine, comme vous le dites. Je trouve que principe, ça referme beaucoup plus les choses que l'idée même d'origine, de source.
Oui, mais alors, comment l'âme, puisque vous le dites, elle est de l'ordre de l'arché, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, si j'ai bien entendu, comment l'âme peut être à la fois, à l'origine de quoi, d'une certaine manière, et du coup, comment est-on sous son emprise?
On n'est pas sous son emprise. On est pour autant que elle est dans la plénitude. C'est-à-dire que elle est déjà une plénitude première, hein, ce que Aristote appelle entelecheia prote. C'est d'ailleurs ce qui est peut-être le plus essentiel dans la manière dont Aristote interprète assurément l'être de ce qui est. Lucia platonicienne, donc on n'est pas sous son emprise, mais on est pour autant que l'on parvient à être dans la plénitude de sa mise en œuvre, de son énergie, energeia, dit Aristote.
Oui, mais alors, vous voyez, nous allons de problème en problème. Parce que vous parlez d'énergie, mais là aussi, énergie, je pense qu'il faudrait peut-être quand même spécifier exactement ce que cela veut dire.
Pour autant que les choses ne sont pas simplement retenues en elles-mêmes, en potentiel, en puissance, alors elles sont déployées dans leur présence, mises en œuvre, energeia, c'est ce que ça veut dire, et la plénitude de la mise en œuvre, eh bien, c'est ça, finalement, L'intellegeia, c'est ça le mot d'Aristote qui a été tant raillé et si mal compris, tant par Montaigne que par Pascal. Montaigne qui parle d'une temps froide invention, mais c'était pas du tout ce que voulait Aristote, que ce fût froid, au contraire. L'intellegeia, c'est quelque chose qui va vers le télos, c'est-à-dire qui va vers la plénitude de son achèvement. Et l'homme, il ne vibre de par son âme que dans la mesure où il parvient à cette plénitude en mettant en œuvre à la fois le sentir, mais le sentir n'est pas la seule possibilité, le seul possible humain. Il est évident que la vocation de l'homme, c'est aussi de knowing, de penser, et c'est là qu'il accomplit, évidemment, son humanité au mieux. Donc l'âme de l'homme, elle se manifeste, elle est faite pour se manifester. C'est pourquoi, je ne sais pas si le mot d'empire convient, parce que je verrais plutôt ça dans la grâce d'accomplissement que dans l'impérium.
Il peut y avoir de très bons empires.
C'est vrai.
J'ai entendu l'expression dont vous êtes servi, Ingrid Auriol, qui était la mise en œuvre.
Oui.
Est-ce que c'est pas plus alors justement, pourquoi avez-vous choisi ce mot? Parce que généralement, on est habitué, on le sait bien, dans la tradition philosophique occidentale, à plutôt parler de potentialité, d'actualité. Et on a l'impression que c'est pas exactement dans cette travée-là que vous vous inscrivez.
Non, en effet, j'ai pensé, là encore, j'ai été beaucoup aidée en cela par d'autres hein, qui ont tracé la voie en ce sens et qui ont invité à réentendre la langue grecque. Alors, d'ailleurs, ça s'est déjà fait, comme on le sait, même à la Renaissance, ou quand Hermolaus Barbarus parle de perfecti abia pour entelekeia, bon, ça c'est en reprenant d'ailleurs d'un autre, etc. Donc ce n'est pas quelque chose qui serait comme ça tombé du ciel, c'est simplement une écoute de ce que le grec veut dire et qui amène à redéployer cela. Parce que si on parle d'acte, en fait, actus, hein, c'est la traduction romaine, et les traductions ne sont pas le petit événement insignifiant pour lequel on les prend le plus souvent, c'est-à-dire pour, au fond, de la transposition, comme pourrait faire un truchement, un interprète. Hein, il faut méditer un petit peu ce qui advient, et surtout la violence que peut faire l'imposition d'un terme romain tel que acte ou actus, qui occulte en quelque sorte ce qui advient, parce que dans l'acte, on a l'idée de passage à l'acte. Il y a justement quelque chose qui est assez différent de cette mise en œuvre que serait l'énergeia et son accomplissement que serait l'intellegeia.
Oui, mais alors du coup, c'est la question que je suis obligé de vous poser, Ingrid Auriol. Est-ce que nous ne sommes pas victimes, je dirais, d'une tradition de notre philosophie, surtout de notre théologie, à l'origine latine, dans la mesure où, je dirais, le latin, c'est quand même une langue de juriste, donc de catégorisation, alors que le grec est une langue beaucoup plus labile, beaucoup plus inventive, beaucoup plus fluide, d'une certaine manière.
Ah oui, vous avez bien raison, et je pense que nous sommes des victimes tout à fait consentantes, dans ce sens que c'est beaucoup plus facile pour nous, et c'est beaucoup plus facile aussi de ployer un savoir et de le rendre, si vous voulez, diplommable, en fait, en quadrillant les choses ainsi, en refermant les mots tels qu'ils soient à tout jamais des concepts. Et ce qui amène à traduire d'une manière presque mécanique un mot pour un mot. Et je ne dirais pas qu'à cet égard, la théologie de l'âge des universités, du premier âge des universités, la théologie scolastique à laquelle vous faites allusion, interprète Aristote, moins bien que nous, mais la théologie l'a interprétée selon la manière dont cela pouvait être entendu. Or, je pense qu'il est grand temps que nous voyions les choses autrement, ne serait-ce que parce que le rapport à la poésie que nous pouvons avoir aujourd'hui est déjà un peu plus... et qui pointe dans Aristote, pour autant qu'on ait lu la poétique et qu'on ait entendu qu'Aristote disait que la poésie est plus universelle que l'enquête. Eh bien, le rapport poétique à la langue nous oblige à traduire quelquefois un terme d'une certaine façon, à l'entendre aussi dans un autre contexte d'une autre façon, tel que logos, par exemple, ou entelekeia, mais surtout nous enjoint d'écouter ce qui se dit en lui, de manière à ne pas privilégier toujours ce qui serait catégorial. Et justement, entelechie, là, c'est une des ententes de l'être les plus fondamentales, et même la plus fondamentale d'Aristote. Or, qu'est-ce qu'on a privilégié pendant cette tradition dont vous parlez, et notamment la tradition médiévale, et même avant, d'une certaine manière, puisque de Boès, on n'a que, surtout les œuvres logiques d'Aristote, bien, on a privilégié une approche de l'interprétation de l'être à partir des catégories, les fameuses 10 catégories aristotéliciennes. Et c'est celle qui tend à prévaloir et à s'imposer chez beaucoup, beaucoup de commentateurs. À cet égard, on pourrait dire que la lecture et les cours de Heidegger ont été, égard à cette entente d'Aristote, un véritable séisme.
C'est la question que je me posais, Ingrid Auriol, puisque, bon, d'une certaine manière, je dirais, nous lisons toujours Aristote, au moins en France, à travers Saint Thomas d'Aquin, pour dire les choses clairement. Je prends Saint Thomas d'Aquin comme une espèce d'emblème, mais enfin bon,
tout à on fait. Voit très bien c'est le traducteur le plus connu et quelqu'un qui fait référence, et qui a notamment Tricot, qui fait référence à Saint Thomas d'Aquin.
Mais alors, justement, en même temps, c'est la question que je me posais, je me dis comment revenir. Vous avez cité Heidegger, donc je vois très bien dans quel horizon vous vous inscrivez. Mais comment revenir au texte même d'Aristote? Parce que je me rappelle encore notre professeur de Cannes nous disant c'est une espèce de ruisseau de pépites que rien n'unit et il faut se débrouiller avec. Donc on a l'impression presque, je dirais presque d'une parole sauvage, de sa manière.
Oui, en même temps, c'est très beau comme image. Je ne sais pas qui c'était, mais c'est une très très belle image. Mais je n'ai pas l'impression de quelque chose de sauvage. J'ai l'impression de quelque chose, au contraire, qui est admirable dans sa manière, la compacité de son style, sa rigueur et son souci d'aller à l'essentiel. C'est peut-être accru d'ailleurs du fait que nous n'ayons que les textes les plus ésotériques, les plus réservés à ses élèves. Mais
je disais sauvage. Je sais très bien ce que ça veut dire dans la bouche de mon professeur. Ça veut dire sauvage par rapport à la pensée claire qui est la nôtre.
Ah, au cartésianisme, être la nôtre. Peut-être, je suppose. Ah oui, je vois mieux ce qu'il entendait par là. Quelque chose qui eût été pour nous dépassé ou inactuel dans sa bouche.
Oui, et en même temps, ce qu'il y avait en filigrane, c'était l'idée qu'en fin de compte, est-ce que Aristote était un vrai grand philosophe? Est-ce que c'était pas plutôt un grand poète? Et la poésie n'ayant rien à voir avec la philosophie, bien évidemment.
Oui, d'abord, la poésie a plus à voir avec la philosophie, on l'a dit tout à l'heure, qu'on ne le soupçonne généralement, et surtout, elle a beaucoup plus à voir avec la pensée qui nous attend, et qui est pour nous l'ultime sérieux, peut-être, de nos préoccupations. Parce que, d'une certaine manière, l'âge de la technique qui est le nôtre, c'est un âge ultra cartésien, qui pourrait se targuer d'avoir peu à faire avec la pensée grecque, mais pour lequel la pensée grecque est à la fois une origine, justement, et une ressource. Voilà, elle est arché, en quelque sorte, on y revient, cette arché dont on parlait tout à l'heure.
Est-ce qu'on peut considérer que chaque âme, que toute âme est singulière à la personne humaine et qui en est dotée, ou alors y a-t-il, je dirais, un concept général de l'âme ?
Il y a les deux. Il y a les deux, et là, vous touchez vraiment à l'essentiel. Parce qu'il y a le todeti, chez Aristote, c'est le ceci que voici dans sa détermination. Hein, et ça, c'est le sens majeur chez Aristote de l'ousia, de l'être même de toute chose. Et pour l'âme, on pourrait dire que, voilà, c'est l'âme. Quand je vois Michel Cazenave, je ne vois pas quelqu'un d'autre. Et en même temps, je vois que c'est un homme. Donc je vois son eidos aussi. Donc, et d'une certaine manière, pour l'âme, c'est pareil.
Je me dis, je pense au fameux traité de Plotin, vous savez, sur les rapports entre les âmes singulières et ce qu'il appelle l'âme universelle, en montrant que les âmes singulières participent toutes de l'âme universelle et que pourtant elles sont singulières. Est-ce que d'une certaine manière, je dirais, Plotin ne vient pas plus d'Aristote que de Platon là-dessus ?
Je dirais quand même que d'après ce qu'on peut en supposer, on a quand même le sentiment que le timé de Platon, et en particulier l'âme du monde, vibre derrière cela. Et il n'y a pas d'âme du monde dans l'idée d'Aristote.
J'avais bien dit âme universelle pour éviter âme du monde, justement.
Oui, je vous ai compris. On pourrait dire qu'il y a chez Aristote un souci de l'âme qui est bien différent du souci de l'âme de Platon, dans la mesure où vous savez bien qu'avec Platon, les âmes sont peut-être pas aussi appropriées à tout un chacun, puisqu'elles peuvent avoir leur vie propre, hein, ce qu'on appelle, je crois, la métempsychose, c'est-à-dire le fait de revenir, échoir, ou parfois déchoir, d'ailleurs, selon la vie que l'on a menée, dans un corps différent. Et ça, c'est pas du tout à l'ordre du jour dans la pensée de...
Si je comprends bien, le rêve de R. Le Pamphilien de la République, ce n'est pas Aristote, ça ne lui conviendrait pas.
Ça lui convient et ça ne lui convient pas. C'est-à-dire qu'Aristote est advenu à lui-même. On pourrait dire que quand il parle de ceux qui font des mythes et qui sont dans l'étonnement philosophique parce que le mythe, c'est le merveilleux et que c'est émerveillé et le propre de la philosophie, voilà, eh bien c'est peut-être au mythe de l'âme chez Platon qu'il pense. Il dit aussi, par ailleurs, que philosopher, ce n'est pas faire de la mythologie. Et il renonce. Il y a une espèce d'ascèse, comme de renonciation à cela.
Vous dites qu'il y a une renonciation au mythe, et pourtant Dieu sait qu'il y a aussi recours quand même à tous les grands poètes, comme Hésiode, comme Homère, etc., dans lequel c'est entièrement quand même du discours mythique, d'une certaine manière. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est quand même, je dirais pas contradictoire, mais disons dialectique d'une dialectique dynamique, d'une certaine manière.
Ah oui, c'est certainement pas contradictoire, non ? Parce qu'il regarde en direction de quelque chose qui n'est certainement plus mythique, mais déjà, on pourrait dire que déjà du temps de Platon, le grand mythe philosophique est non pas mort, mais moins vivant. Et la philosophie ne serait pas advenue sans cela. D'ailleurs, la plupart des grands mythes de Platon sont des mythes de l'âme. Et on voit bien ici que c'est la dernière, au fond, le dernier domaine qui restait à arracher au mythe pour tenter de le penser plus avant, pour que la propre splendeur philosophique de l'âme puisse resplendir.
Oui, mais alors, si je comprends bien, si je faisais allusion à R. le Pamphylien, c'est-à-dire il n'y aurait pas chez Aristote cette idée, par exemple, que l'âme redescendrait sur Terre, oublierait ce qu'elle avait vécu avant, et donc, d'une certaine manière, choisirait une nouvelle destinée. Enfin, il n'y a pas de transmigration.
Non, non, non. En tout cas, il n'en parle pas. Il n'en parle pas ainsi. C'est pas ainsi qu'il aborde la question de l'âme.
Mais je me demande en même temps s'il n'y a pas une profonde logique, c'est-à-dire si l'âme est réellement singulière, même s'il y a le concept de l'âme, ça j'ai bien entendu ce que vous avez dit, mais si l'âme est singulière, est-ce que la transmigration a encore un sens ?
On peut se le demander, effectivement.
Que fait-il par exemple du fameux mythe de Platon sur l'âme avec les deux chevaux ailés qui la conduisent, etc. Parce qu'on a l'impression que là aussi nous mouvons dans un horizon complètement différent.
Oui, on pourrait dire que d'une certaine manière il n'en fait rien. On pourrait dire aussi que dans la mesure où l'âme est à la fois est une âme sensitive et qu'elle est une âme nutritive et qui d'une certaine manière permet à l'être vivant de procréer, d'engendrer. Et puis d'autre part que l'âme est pensante, on pourrait dire, ben voilà, il en fait des... non pas des parties, mais des parties de l'âme, au sens où on dit des fonctions d'eux, mais il ne s'agit pas de fonctions en fait, il s'agit d'aptitudes. Et on pourrait dire, voilà, il fait de ces deux chevaux des aptitudes, et du cocher, n'oublions pas le cocher, des aptitudes de l'âme.
Oui, mais alors, c'est ce que j'essaie de comprendre, parce qu'on voit très bien comment une certaine tradition nous a dit, ben, finalement, il y a l'âme végétative, il y a l'âme intellective, et souvent on se demande, mais finalement, qu'ont-elles à voir l'une avec l'autre, et pourquoi se trouvent-elles ensemble ? Est-ce qu'on a l'impression que pour lui, le problème ne se pose absolument pas comme ça ?
En effet, le problème ne se pose absolument pas comme ça, dans la mesure où on ne saurait penser, si on n'accédait pas, de par notre sensibilité, à ce qu'il y a à penser. Si on n'était pas au contact de ce qui est.
Oui, mais justement, c'est ce que j'essaie de comprendre, c'est les rapports de l'âme avec le monde.
Oui.
De cette manière. C'est-à-dire avec tout ce qui est de l'ordre du sensible, tout ce qui est de l'ordre du physique, tout ce dans quoi nous sommes immergés, finalement.
Et oui, mais c'est tout de même une question énorme. Toute la question, d'ailleurs, peut-être on pourrait dire de la deuxième partie de ce traité de l'âme, et puis aussi du début de la troisième partie, toute la question de ce que c'est que sentir, et comment le sentir ne se contente pas de s'agréger ou de s'adjoindre quelque chose comme l'intelligence des choses, mais comment le sentir est déjà dans l'intelligence des choses. À un moment donné, Aristote dit « noé », c'est-à-dire il capte ce sentir, il capte ce qu'il en est.
Oui, mais justement, de ce point de vue-là, on a l'impression, mais vous avez peut-être me trompé, je n'en sais rien, mais on a l'impression qu'Aristote n'a pas cette espèce de, pour aller vite, je dirais, de mépris du monde sensible, qu'à notre tradition philosophique. Au contraire, le monde sensible est quelque chose d'extrêmement présent et avec lequel nous avons affaire.
Oui, c'est justement ce en quoi Aristote nous est si proche. Il n'y a aucun mépris du monde sensible, et au contraire peut-être une manière de nous faire accéder à l'éminente dignité de ce que c'est que sentir. Parce qu'Aristote nous explique bien que nous voyons, lorsque nous voyons, Nous sentons que nous voyons, et c'est de l'ordre du ressentir. C'est-à-dire qu'on accède déjà dans le sentir à quelque chose qui serait, enfin pour employer un mot qui n'est pas très aristotélicien, puisqu'il n'apparaît pas avant une période bien tardive de la métaphysique, et même on pourrait dire qu'il nous fait accéder à une ontologie, ce que ça a d'ontologique, en quoi le rapport aux choses procède aussi de là, et surtout comment nous advenons à nous-mêmes aussi dans ce rapport. C'est-à-dire, contrairement à l'idée du cogito cartésien, dans lequel on a l'impression de rattraper le monde au bon comme une balle dont on se saisirait, alors qu'au départ on aurait des toutes petites fenêtres ouvertes d'une manière peut-être un peu étroite et quadrangulaire sur le monde tel qu'il est, comme si on était en face, là on est... C'est l'inverse qui est vrai, c'est-à-dire qu'on advient à soi-même pour autant que, en tant qu'âme, justement, on se sent exister, vivre, pour autant que on est en présence des iris un peu encore plus jolis quand ils sont en train de faner. C'est-à-dire que c'est l'inverse de ce qu'on serait supposé croire. On ne s'aperçoit pas de l'extérieur que l'on sent, mais on ressent que l'on sent.
Oui, mais justement, est-ce que d'une certaine manière, Aristote ne nous invite pas dans cette appréhension du monde, dans cette, je dirais presque... Dans cette manière de ressentir le monde et de le ressentir, de le faire nôtre et d'en être en même temps,
voilà.
Est-ce qu'il ne nous rend pas homme d'autant plus homme ? Je veux dire par là, non pas dans une espèce de rêve ou d'illusion de regagner des cieux éthérés, mais de dire nous sommes de ce monde.
Nous sommes de ce monde et nous n'avons l'intelligence des choses que pour autant que les choses sont. Nous n'allons pas prétendre résorber, il y a aussi une énorme humilité, nous n'allons pas prétendre résorber par notre entendement ce qui est, c'est-à-dire nous sommes en présence.
Alors en même temps, se pose la question, Ingrid Auriol, c'est que, comment se fait la jonction, là aussi, par rapport à une certaine tradition philosophique, mais comment se fait la jonction entre notre pensée, là vous avez bien insisté dessus, et le monde sensible ? Puisque là, nous avons pris l'habitude de bien les séparer.
Oui, bien justement, Aristote est l'inventeur de ce qu'on pourrait appeler plus qu'une jonction, mais peut-être d'une faculté qu'il fait émerger pour la première fois, la fantasia, alors, qui n'est pas bien sûr la fantaisie qu'on entend en français, mais qui a à voir avec la vision et la lumière, c'est-à-dire quelque chose qui... n'est pas simplement à appréhender comme neutre, comme extérieur, mais quelque chose qui serait une aptitude en nous, susceptible justement de faire en sorte que, même en l'absence du monde senti, nous pouvons nous remémorer ce qui est senti, de manière à penser dans le temps et dans l'espace ce qui est hors du temps et hors l'espace, en sorte que la pensée la plus spéculative, comme nous dirions aujourd'hui, est elle aussi tributaire en quelque sorte et pour partie du sentir.
Thank you.
Il y a quelque chose qui me pose problème, Gaudriol. Je veux dire, bon, dans la Fantasia, vous faites bien ressortir, effectivement, dans la mesure à quel point c'est près du verbe fanesta. Il y a toujours ce qui brille, ce qui apparaît, ce qui, etc. Bon, et en même temps, j'ai entendu quelque chose, je me suis peut-être trompé, mais j'ai entendu quelque chose comme de l'ordre, je dirais, de la ressouvenance. Et est-ce que, précisément, est-ce qu'il ne faudrait pas aller de ce point de vue-là plus loin qu'Aristote, c'est-à-dire de se dire qu'il y a quelque chose de la fantasia, disons de l'imagination, mais de l'imagination au sens strict, c'est-à-dire de la création des images, et qui peut exister par soi-même?
Oui, mais c'est-à-dire que avant d'aller plus loin, moi, j'essaierai aussi de dire peut-être ce qu'Aristote dit lui-même, parce que je suis bien incapable d'aller plus loin à cet égard, mais ou de savoir si c'est plus loin ou en deçà, tant que j'ai pas expliqué ce qu'il en est. Et il me semblerait que, par rapport à ce que vous disiez, ça serait presque l'inverse, c'est-à-dire que pour se remémorer, il faut la fantasia, puisque la fantasia nous porte des images en l'absence du senti, parce qu'au préalable, on a senti. C'est-à-dire qu'elle est cette puissance d'évocation d'images advenues. Donc, pour se remémorer, on a besoin d'avoir recours à cette faculté. Ou alors j'ai peut-être...
Non, j'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tout le temps dans une espèce, même si ce n'est pas du tout platonicien, ce n'est pas du tout la réminiscence, mais on est dans une espèce de ressouvenir, enfin, c'est-à-dire de réactualisation, de remise au jour de ce que nous avons déjà senti. Oui. Ce que je me demande, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une fantasia, comme on va le trouver chez Proclus, par exemple, une imagination qui, en fait, justement, n'est pas du déjà ressenti, mais qui est l'accès à un nouveau ressenti?
Sans doute, de toute façon, Aristote lui-même parle aussi de l'avenir. On a besoin de la fantasia dans le rapport au temps. Et le rapport au temps, ça peut être l'anticipation. Donc l'anticipation, elle recompose certainement à sa manière les choses. Mais on ne peut pas non plus lui prêter, évidemment, plus qu'il ne lui revient. Mais ce que vous voulez me demander, au fond, c'est si Aristote ne reste pas un peu dans la dépendance de son maître Platon. C'est-à-dire si le Tieneinai, ce qu'était être, la manière dont il appréhende ce qui est comme persévérant dans son être. Hein, c'est comme ça que j'ai traduit le Tieneinai et que les latins ont envisagé comme quidité, quiditas, quod quierat esse, ce qui est le meilleur moyen d'ailleurs de ne pas traduire, hein, simplement de calquer l'expression. Ben, oui, d'une certaine manière, on peut dire ça, on peut dire Aristote ne se différencie de Platon que pour autant qu'il fut d'abord platonicien, c'est-à-dire qu'on peut dire que l'eidos est plus ce qui est le composé des deux que la matière. Par exemple, on dira que dans ce vase-là, la forme qui fait que c'est un vase est sans doute plus vase que l'argile qu'il a... Et d'une certaine manière, c'est faire droit. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que nous sommes faillibles. Nous sommes faillibles, nous, les êtres humains. Et par conséquent, nous ne nous souvenons pas toujours. Et nous ne nous souvenons pas toujours, ce qui est toutes les manières possibles, finalement, de manquer la vérité.
Pour vous dire la vérité, Ingrid Auriol, j'avais en tête le fameux dialogue du Ménon, vous savez, avec le jeune esclave à qui Socrate fait se ressouvenir la fameuse réminiscence de telle propriété mathématique. Et en relisant le texte, moi, je suis toujours frappé de dire oui, il se le rappelle, et en même temps, Socrate lui dit au fur et à mesure ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'à la fois, il l'invente, il se souvient et il invente. Et je me demande, est-ce que l'Occident, justement, n'a pas vécu sur cette dichotomie entre inventer et se ressouvenir?
Oui, mais pour se ressouvenir, il faut être capable de réinventer, parce que sinon c'est un souvenir mort. C'est un souvenir d'antiquaire. Donc, c'est parce qu'il est mis sur la voie dans la bonne direction que les choses lui apparaissent en toute clarté et sans reste au jeune esclave. C'est-à-dire parce qu'il a vraiment refait le chemin. Sinon, ce n'est pas un vrai souvenir.
Mais justement, c'est à ce moment-là une manière de comprendre la réminiscence d'une manière quand même assez différente de ce que la tradition nous a transmise.
Sûrement, oui.
Le problème qu'il faut, faudrait peut-être aborder, Ingrid Auriol, vous y avez largement fait allusion, c'est justement, et par rapport à l'âme, quel est le rapport réel d'Aristote à Platon ?
Le rapport réel d'Aristote ?
Parce qu'on a l'impression quand même qu'il est très redevable, et qu'en même temps il prend sa liberté.
C'est exactement cela, il est très redevable, et il n'y a qu'en étant ultra redevable que nous-mêmes nous pouvons prendre notre liberté. C'est-à-dire que c'est parce qu'il a été 19 ans, peut-être l'élève, on dirait aujourd'hui aussi l'assistant peut-être de Platon, qu'il est advenu à lui-même. Et puis en même temps, on voit très bien que advenant à lui-même, eh bien, il nous amène aussi ailleurs.
Mais c'est une des questions que je me pose, Ingrid Auriol. Quelle est la conception de l'âme dans son rapport le plus intime avec la matière dont nous sommes faits ? Je pense, par exemple, à un passage de Chrysippe qui explique que dans le sein de notre mère, notre âme est très chaude, et puis que lorsqu'on vient au jour, l'âme se refroidit. Et là, on voit qu'il y a tout un processus physique, en quelque sorte, de l'âme. Est-ce que Aristote n'est pas dans un... Je dirais, sans être platonicien, mais n'est pas dans un horizon quand même assez différent ?
Oui, d'ailleurs, il a écarté d'emblée les idées selon lesquelles l'âme, c'est psychos, du froid, du réfrigérant, et puis aussi du chaud, mais comme si les deux, d'ailleurs, étaient tout aussi justifiés. Hein, vivre, c'est avoir place au soleil, en quelque sorte. Hein, donc, il y a la chaleur de l'âme. Ça serait encore une manière, peut-être... la manière dont les anciens physiciens parleraient de l'âme, dirait Aristote. Donc, l'âme, c'est ce qui fait que nous avons accès à toute chose, c'est-à-dire ce qui ne se met pas entre les choses et nous. C'est pourquoi j'avais choisi en exergue une... citation de Nietzsche que je mets au début de la préface. Nietzsche dit à un moment donné dans le Zarathoustra « Et mon âme aussi est comme une fontaine jaillissante ». Mais il le dit parce que le Zarathoustra dit « Il fait nuit, voici que s'élève plus haut la voix des fontaines jaillissantes. Et mon âme aussi est une fontaine jaillissante. Il fait nuit, voici que s'éveille tous les chants des amoureux. Et mon âme aussi est un chant d'amoureux ». Ce qui veut dire que psyché, c'est ce qui ne fait pas écran entre le monde et nous et qui donne accès. C'est cette espèce d'accès à toute chose. Vous voyez, elle n'est ni chaude ni froide. Elle est l'accès qui respecte la froideur de la chose si elle est froide et le chaud qui vient du monde ambiant s'il y a chaleur.
Mais alors, d'une certaine manière, je vais être un peu audacieux, Ingrid Auriol, si vous voulez, puisqu'on sait, enfin, il suffit de lire l'Anthologie palatine, par exemple, on voit très bien comme l'âme psyché, c'est aussi le papillon. Est-ce que d'une certaine manière, c'est pas un peu le papillon qui prend toutes les choses comme elles sont et qui les adore toutes?
Ah oui.
Qui les adore toutes. Bon.
Peut-être pas les adorer toutes, mais les reconnaître dans leur être. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout le contraire d'adorer. On ne trouverait pas ce terme d'adoration dans Aristote, évidemment. Donc, c'est pour ça que...
Est-ce que le terme de vénération vous irait mieux ?
Il n'est plus... Vénération. Vénération, ça fait
en
penser...
En le dégageant de tout contexte chrétien.
De toute façon, vénération, ça me fait plus penser à Vénus qu'à un contexte chrétien. Et pour moi, il y a un tremblement d'effroi. J'aurais vu ça du côté des tragiques, presque, de Sophocle, la vénération. Au sens où il y aurait comme une sorte de recul devant ce qu'il y a de terrible. Et je pense qu'il y a quelque chose de peut-être plus apaisé, enfin, dans la manière dont Aristote... une admirable manière de procéder, mais de procéder justement sans être ni dans la vénération, qui suppose à mon sens un certain effroi, ni même dans cette espèce de froideur ou de recul qui me sépare des choses comme par une vitre. C'est tout le contraire.
Alors justement, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Ingrid Auriol, puisque vous disiez Aristote refuse l'âme, le fameux psychros, le froid, le glacé.
Disons qu'il l'évoque, mais il ne s'en tient pas là.
Est-ce que le psychros ne renvoie pas, je dirais, à la froideur des âmes telles qu'elles sont dans l'Hadès, c'est-à-dire des âmes mortes, d'une certaine manière. Et est-ce que ce qui intéresse Aristote, ce n'est pas l'âme vivante?
Oui, c'est l'âme vivante. D'autant que dans l'Hadès, je crois me souvenir, ce sont plutôt des fantômes qui n'ont pas... ont besoin, pour avoir la parole, de boire le sang et donc de se régénérer au fleuve. Donc oui, effectivement, c'est le logos, c'est ce qui nous fait parler, hein, je crois.
Mais c'est pour ça que je me demande, est-ce que la vraie question fondamentale, ce n'est pas, et là aussi dans un sens tout à fait différent de Platon, est-ce que ce n'est pas comment bien vivre?
C'est certainement comment bien vivre, mais c'est certainement comment vivre sans se raconter d'histoire, c'est-à-dire en étant dans la letheia, dans la lumière de la vérité, et comme justement accès à ce qui est.
Livre.
Puisque nous avons parlé d'Aristote et de la sagesse grecque, je voudrais attirer l'attention d'abord sur le livre de Karen Armstrong, La naissance de la sagesse, aux éditions du Seuil. À quoi est-ce que s'intéresse Karen Armstrong? À un certain nombre de figures, comme le Bouddha, comme Confucius, comme Socrate, comme les prophètes juifs, mais aussi à des gens comme Mencius, qui sont peut-être moins connus du point de vue chinois, ou à Zoroastre, bien entendu, ou alors à Échille, à Sophocle, jusqu'à Euripide, c'est-à-dire ceux qui ont créé, qui ont marqué la trajectoire, si l'on peut dire, de la tragédie grecque. L'idée qu'elle reprend, c'est celle de la période axiale, qui avait déjà été proposée, on le sait, par Karl Jaspers, et qui essaie de nous montrer qu'en gros, entre le Xe siècle avant Jésus-Christ et le IIIe siècle, il y a eu une sorte de basculement de l'humanité, un changement social, psychique, mais au-delà du changement social et psychique, d'un changement spirituel qui a permis à la philosophie, qui a permis au grand système de pensée, au grand système de croyances, sur lesquels nous vivons encore en partie aujourd'hui, de venir à jour. Et elle essaie précisément de nous en faire prendre conscience et de nous montrer à quel point il y a eu une mutation de l'humanité à cette période. Nous vivons dans un monde tragique où, comme le savaient les Grecs, il ne peut y avoir de réponse simple. Le genre de la tragédie exige que nous apprenions à considérer les choses du point de vue d'autrui. Si la religion doit apporter quelque lumière à notre monde brisé, nous avons besoin, comme le suggérait Mencius, de partir en quête du cœur perdu et de l'esprit de compassion présent au cœur de toutes nos traditions. Au-delà de cette période axiale, mais qui a vu la naissance de toutes nos traditions philosophiques, où nous assistons au jaillissement, à la source, dans le sens latin, aurior, le jaillir précisément, venir au jour de toutes nos sagesses, je voudrais signaler, sous la direction de Jean-Yves Lacoste, l'histoire de la théologie, toujours aux éditions du Seuil. Dans la mesure où on s'aperçoit qu'en réalité, contrairement à ce que nous croyons d'habitude, il y a eu différentes théologies, il y a eu particulièrement une théologie des pères grecs, On peut penser évidemment d'abord aux grands Cappadociens, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Basile de Césarée, Saint Grégoire de Nice. Une théologie grecque qui est d'abord une théologie de la beauté et d'une certaine manière une théologie du non-dicible. Et de ce point de vue-là, on voit bien quelle est toute l'influence de la pensée grecque traditionnelle. Et puis, il y a une théologie latine, celle que nous connaissons, celle qui débute avec saint Augustin et qui a marqué tout l'Occident, qui est une réflexion à partir du concile de Nicée, à partir du concile d'Éphèse, à partir du concile de Chalcédoine, c'est-à-dire la théologie qui se bâtit en rapport à la crise de l'arianisme, c'est-à-dire lorsqu'on s'est posé la question des rapports du Dieu-Fils avec le Dieu-Père, puis de ce qu'on appelle la crise nestorienne, c'est-à-dire les rapports dans le Fils-Dieu, quels étaient les rapports entre le Christ et l'homme? Est-ce que c'était une seule nature? Est-ce que c'était deux natures? Et on sait très bien tous les débats auxquels cela a donné lieu. Et de ce point de vue-là, c'est justement une entrée en profondeur dans toutes ces traditions théologiques dont une grande partie nous est inconnue, qui nous est proposée et qui nous amène jusqu'à la théologie d'aujourd'hui et éventuellement à la théologie féministe, telle qu'on la trouve avec quelqu'un comme Madame Ruyter, ou alors à l'influence de Whitehead, ce qu'il appelle la process théologie, une théologie du processus, où Dieu est tout le temps en train de se faire, et qui nous amène évidemment à la notion du Dieu faible, par exemple, qui a été proposée, voici pas très longtemps, par quelqu'un comme Hans Jonas. Nul événement n'a le dernier mot dans l'histoire. On nous permettra toutefois de laisser ici le dernier mot de cette histoire à la redécouverte de ses sources juives par la théologie chrétienne. La théologie classique se nourrissait d'une opposition simple entre le Wetus Israël et le Werus Israël, l'Israël vrai, c'est-à-dire l'Église. Cette opposition est désormais dépassée au profit d'une pensée qui tente de lier continuité et discontinuité. Mais l'histoire de la théologie n'est sans doute pas plus finie que n'est finie celle du christianisme. Aucune conclusion ne peut donc s'imposer. Par ailleurs, dans un registre apparemment différent mais qui a des liens profonds avec, je voudrais signaler aussi l'ouvrage de Mario Cifali, Vie d'âme ou le royaume du ça, aux éditions Slatkin, et qui paraît d'ailleurs en même temps que l'ouvrage de Venkateshvar Sharma et de Swami Prajnapad, Tu es cela, qui reprend le fameux Tadvamasi, évidemment, de la spiritualité indienne. À quoi est-ce que nous sommes confrontés avec l'ouvrage de Mario Cifali, qui a été très attentif à l'enseignement précisément du Swami Prajnapad, qui essayait de faire entrer en cohérence la psychanalyse selon Freud et la sagesse indienne traditionnelle. Ce à quoi nous sommes confrontés, c'est donc à une réflexion très profonde, très nouvelle, d'une certaine manière, on peut presque oser le mot révolutionnaire, des liens entre la spiritualité et la psychanalyse. Et de ce point de vue-là, on voit comme Mario Cifali essaie d'aller au centre de la conscience vitale afin de triompher, si l'on peut dire, des limitations du moi dans un vacillement de l'être que nous nous croyons, dans une poétique de l'être, mais poétique de l'être au sens grec, c'est-à-dire poésie, c'est la fabrication de l'être, justement dans ce au-delà du moi, en quelque sorte, et en même temps, un au-delà de la science qui introduit à une véritable connaissance. Et d'un certain point de vue, c'est à la fois une extrême fidélité à Freud, mais c'est en même temps un dépassement de Freud. Nous nous trouvons devant un Freud qui aurait entendu ce que lui disait Romain Rolland. Le divin, au-delà du moi, est au cœur de toutes les religions. La mort du moi ouvre sur le royaume intérieur, identique à l'union incestueuse. Voilà sans doute qui fait dire à Lacan, mais à sa manière, que la face de Dieu est supportée par la jouissance féminine. De fait, c'est avec l'œil de l'âme que l'homme réalise ses prises de conscience en observant ses semblables et le monde. La vérité du monde n'existe pas indépendamment de cette âme. Enfin, je voudrais terminer par l'ouvrage qui vient d'être publié de Marie-Louise von Franz, ou plus exactement de Fraser Boa et de Marie-Louise von Franz, puisqu'en fait c'est toute une série d'entretiens et d'entretiens qui s'étaient tenus à la radio de Grande-Bretagne sur La Voix des rêves aux éditions de La Fontaine de Pierre. Car on voit bien que ce qui est mis en avant là, c'est le langage de l'âme, et d'un certain point de vue, on est frappé de voir les concordances avec l'œuvre de Mario Cifali et la manière dont lui-même d'ailleurs remettait en avant la notion de l'âme, l'âme comprise largement selon la tradition indienne, ce fameux Atman que Jung va traduire quant à lui par le terme de soi et que reprend précisément Marie-Louise von Franz. Et à travers ce langage de l'âme, qui est le langage du rêve même, elle essaie de montrer comment il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une intelligence supérieure, qui est de l'intelligence du soi. Et à travers le rêve, se donnerait le sens de la vie, se donnerait les orientations que nous avons à prendre, en même temps que cela nous préviendrait des cataclysmes qui éventuellement sont en train de veiller sur nous. Donc on peut prendre cet ouvrage comme une sorte de complément à l'interprétation des rêves de Freud, non pas du tout d'ailleurs comme une négation, mais beaucoup plus comme un au-delà, et qui nous permet de comprendre véritablement ce que dans la tradition dont se réclame Marie-Louise von Franz, on appelle l'inconscient collectif, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'âme du monde, de cette âme du monde dont nous avait déjà parlé Plotin, et cette âme du monde à laquelle, sans arrêt, se réfère quelqu'un comme Mario Cifali. Chuang Tzu rêva qu'il était un papillon. À partir de ce moment-là, il resta perplexe, se demandant s'il était un homme rêvant qu'il était un papillon, ou s'il était un papillon rêvant qu'il était un homme. Sommes-nous dans le rêve du soi, ou le soi est-il notre rêve? Nous l'ignorons.
Les livres aujourd'hui. La naissance de la sagesse de Karen Armstrong aux éditions du Seuil. L'histoire de la théologie, un collectif sous la direction de Jean-Yves Lacoste, également au Seuil. Vie d'âme ou le royaume du Ça de Mario Cifali aux éditions Slatkin et La voix des rêves de Fraser Boa et Marie-Louise Franz aux éditions La Fontaine de Pierre. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Ingrid Auriol. Mixage Philippe Mercher, réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azéra.